نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc on continue inshallah ta'ala le cours qu'on a commencé hier, et dont le sujet est le mawdou' wa minhaj al-anbiya fi da'wati ila Allah. Al-minhaj, comme on a dit, c'est la voie, al-tariq. Al-anbiya, c'est les paroles de Nabi qui sont donc les envoyés. Dans quoi cette voie, c'est dans l'appel à Allah Azzawajal, c'est-à-dire comment ils ont fait la da'wa, comment ils ont appelé Allah Azzawajal, quelle était leur méthode, quel était leur chemin dans cela. Donc hier on a parlé et on a développé le sujet, et aujourd'hui inchallah on continue, sachant que le point fondamental qu'on avait vu hier, et qui était que les envoyés, ils ont commencé par ce qui était le plus important dans leur da'wa, c'est-à-dire dans leur prêche. Et ce qui est le plus important, comme on a dit, c'est commencer par la croyance. Car c'est le plus important au niveau de la da'wa, au niveau du prêche. Les envoyés, tous les envoyés, du début ou du premier jusqu'au dernier, jusqu'à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont commencé leur da'wa avec la croyance. Ils ont commencé à concrétiser le tawhid, c'est-à-dire donc l'unicité d'Allah Azzawajal, qui est en réalité la croyance de l'islam. La véritable croyance de l'islam, c'est la tawhid. Rien d'autre. C'est l'unicité d'Allah Azzawajal. Que ce soit dans son adoration, que ce soit dans sa seigneurie, que ce soit dans ses noms et ses attributs. Et on avait vu hier Al-Aqsam. Et on avait vu ce que comportait donc le Coran. Aujourd'hui donc, on va continuer sur ce sujet, sachant que pour ce qui est des prophètes, Allah Azzawajal, il en a envoyé nombreux. Il est venu dans un hadith qui a été authentifié par certains savants, comme Sheikh Al-Albani et d'autres, ils ont été au nombre de 124 000. Ils ont été au nombre de 124 000. Et sur ces 124 000, il y a eu 315 prophètes, sachant que beaucoup de savants ont fait la différence entre Ar-Rasoul, celui qu'on appelle Ar-Rasoul, et celui qu'on appelle Al-Nabi. Et beaucoup de paroles ont été dites sur ce sujet, sachant que la parole la plus forte est celle qui dit que Al-Nabi, c'est celui donc qui va faire la da'wa, il va lire par Risala, mais sur une sharia qui a déjà été présente. Alors que Ar-Rasoul, il va venir lui avec une nouvelle législation. On a vu hier le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a nommé les envoyés, il a dit qu'ils sont les frères du terme, quel est le terme qu'on avait dit hier, qui s'est fait rappel. Hein? Hallaj. Et on avait dit Hallaj, qu'on avait expliqué lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ummatuhum shatta wa dinum wahid. C'est-à-dire donc, que leurs mères sont différentes, c'est-à-dire qu'ils en ont plusieurs, mais leur père, il est unique, il est un seul. Et en vérité, le père, c'était en réalité l'aqida, c'était en vérité la croyance, le din, la base de la religion, donc. Et pour ce qui était de la mère, c'était, ou les mères, c'était le kinaya. C'est une métaphore pour exprimer ou pour dire les sharia, ou on va dire les législations qui ont été différentes. Donc, Ar-Rasoul, celui qui n'a qu'une législation, qui est nouvelle. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont précédé. Par contre, un Nabi, lui, il vient sur une législation qui est déjà présente, donc il n'en vient pas avec une nouvelle législation, mais il fait le même travail que le prophète par rapport donc, au tablir, par rapport donc, à la transmission. Également, on avait vu que. Et lorsqu'il y a donc des envoyés, notre croyance par rapport aux envoyés, c'est qu'on croit à tous les envoyés. C'est-à-dire, il y en a ceux qui ont été cités dans le Coran et ceux qui n'ont pas été cités. Parmi ceux qui ont été cités, il y en a eu au total 25. 25 envoyés qui ont été cités dans le Coran. Le premier des envoyés, c'était Nuh, alayhi salam, et le dernier des envoyés, c'était notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a déjà dit dans le Coran, وَرُسُلًا قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. C'est-à-dire donc, des envoyés dont nous avons fait part de leur récit avant, et des envoyés dont nous ne t'avons pas fait part de leur récit. Et la croyance donc, qu'on doit avoir par rapport aux envoyés, c'est que l'on croit en tous les envoyés. On n'a pas le droit de faire la différence. Maintenant, un musulman fait une différence entre un prophète, par rapport, non, on dit la différence par rapport à la foi en lui, c'est-à-dire qu'il croit qu'il est, ou qu'il ne croit pas, dans ce cas-là, qu'il est un messager, alors, à partir de là, il n'est pas considéré comme musulman. Ça rentre lui-même dans le Rasoul. Ça rentre dans le chapitre de la foi aux envoyés. Et c'est pour ça que Allah Azzawajal, il nous rappelle un verset dans un verset du Coran, qui est le suivant. Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusuli. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Ici donc, pour ce qui est de l'explication de ce verset, ceux qui ont voulu renier Allah et ses prophètes. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. Ils veulent donc faire la différence et fascisme entre Allah et son prophète. Et ils disent ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. C'est-à-dire nous croyons en certains et nous délaissons certains. Sinon nous croyons en certains. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Ils veulent donc prendre entre eux cette croyance, c'est-à-dire le fait de croire en certains et délaisser certains. Pour, par rapport à la croyance, de prendre un chemin. Et Allah, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ça? Elle a dit, Oulaika humul kafirun haqqa. Ce sont eux les véritables mécréants. Donc ça, c'est une preuve. On n'a pas le droit de faire la différence par rapport aux envoyés. Qu'est-ce que veut dire donc ce verset du Coran? C'est-à-dire donc, ces envoyés dont nous avons fait donc préférence les uns sur les autres. Ces envoyés dont nous avons fait préférence les uns par rapport aux autres. Donc il y a une préférence qui a été faite par rapport aux envoyés. Et l'autre verset qui est celui-là, لا نفرق بين أحد من الرسل. لا نفرق بين أحد من الرسل. C'est-à-dire nous ne faisons pas la différence entre les envoyés. Savant donc ils l'ont expliqué, ils ont fait le rapport entre ces deux versets. Pour ce qui est du premier verset, c'est qu'Allah Azzawajal, il a donné donc des choses à certains envoyés qu'il n'a pas donné aux autres. Vous voyez, comme le fait qu'il apparaît comme il est dans le verset. C'est-à-dire ceux que Allah Azzawajal, il leur a parlé. Donc celui d'Allah Azzawajal qui il a parlé directement, bien entendu, il va avoir un degré au-dessus. Etc. Donc des préférences qu'Allah Azzawajal a données. Parce que de l'autre verset, là nous faisons des c'est-à-dire nous ne faisons pas la différence entre les envoyés, c'est par rapport aussi à la croyance. Donc on n'a pas le droit de faire la différence dans la croyance. C'est-à-dire, contrairement aux juifs, les juifs qui ont fait la différence, qui ont cru donc à Moïse, lorsque Isa est venu, ils n'ont pas cru en lui. Lorsque Mohammed est venu, ils n'ont pas cru en lui. De même pour ce qui est des chrétiens, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru en Mohammed parce qu'il est venu. Et ils ont cru en Isa. Alors que les musulmans, ils ont cru dans tous les envoyés. Ils ont cru tous les envoyés, depuis le début jusqu'à la fin. Ça donc, c'est simplement un rappel par rapport à nos croyances, pour ce qui est des envoyés. Pour bien comprendre le sujet, et pour donc, rester dans ce qui est de Minhaj al-Anbiya. On a dit donc que les envoyés, ils ont commencé leur croyance avec le tawhid, avec la croyance. Voyez, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la prophétie elle a commencé, lorsque Allah Azzawajal l'a désigné comme étant donc un prophète, et qu'il l'a donc chargé en yuballir, il l'a chargé donc de transmettre par risala le message, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté combien de temps à Mecca? Il est resté 13 ans à Mecca. Qu'est-ce qu'il a fait à Mecca durant 13 années? C'est-à-dire donc qu'il a mis en place la véritable croyance du tawhid. Ça a été sa fonction durant 13 ans. Regardez 13 années. 13 années, c'est beaucoup 13 années. Une personne qui pense maintenant durant 13 années, et la personne pratiquer la tawhid. Alors comment ça se fait que certaines personnes, on avait dit à lui, c'est-à-dire donc c'est une contradiction avec le chemin des prophètes, ceux qui commencent leur dawa par une autre chose que le tawhid. Alors que le prophète sallam lui-même, il a commencé durant 13 années. Ceux qui commencent ici à ça, c'est-à-dire qu'ils commencent dans un premier temps par la politique. Ou alors ceux qui commencent pour ce qui est de l'adoration et des afkar, c'est-à-dire donc des invocations, etc. Et donc ils se concentrent sur cela, sans prêter une réelle attention à ce que c'est le tawhid. On va voir que le tawhid, c'est large. Et le tawhid, réellement, pour comprendre, il faut comprendre ce qui va à l'encontre du tawhid. Car les choses réellement, elles deviennent plus claires lorsqu'on comprend leur contraire. On comprend, on sait, on connaît réellement ce que c'est le jour parce qu'on a connu ce que c'était la nuit. On sait vraiment ce que c'est la froideur parce qu'on sait réellement ce que c'est la chaleur, etc. يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Ça c'est le premier verset qui va nous indiquer ce qu'on est en train de développer. Ce premier verset c'est le suivant. ولقد بعثنا في كل أمة. On a donc envoyé dans toutes les communautés qui رسولا. Donc on a envoyé أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et donc ici de quoi faire? C'est-à-dire afin de quoi faire? Afin d'adorer Allah عز وجل et de s'écarter du At-Tarut. Qu'est-ce que At-Tarut? Ça, c'est le premier verset. Dans un premier temps, dans ce verset, et dans les deux autres versets qu'on va citer, ça sera un petit exemple, il y en a plusieurs, c'est qu'on va trouver ici les deux piliers de At-Tawhid. Et que tous les envoyés dans leur voie, ils ont appelé à cela, c'est-à-dire à concrétiser le tawhid, et ce que comprend cette concrétisation, c'est de s'écarter de tout ce qui va à l'encontre du tawhid. Donc, il y a eu ici ce qu'on appelle une affirmation. Anirbudullah. Ici, c'est l'affirmation. Ce qu'on appelle ifdat. C'est ce qu'on appelle donc en langue arabe al-ifdat. Ça, c'est l'affirmation. C'est le premier donc pilier de tawhid. C'est le premier pilier de l'unicité d'Allah Azzawajal. Le deuxième pilier que l'on retrouve dans ce verset, Ani'budullah, wajtanibut ta'ut. Donc de s'écarter, de nier ce qu'on appelle la ta'ut. On va revenir sur ce terme, ta'ut, qu'est-ce qu'il veut dire au niveau du char, comment expliquer les savants. Et donc de s'écarter, qui sont traduits de façon générale, de s'écarter de tout ce qu'on adore en dehors d'Allah Azzawajal. Ça c'est la ta'ut. Donc on voit ici qu'il y a bel et bien ce qu'on appelle un nafi. Ce qu'on appelle un nafi. Un nafi qui vient du verbe nafa. Et qui est donc le fait de renier, le reniement. Donc en premier lieu, on a eu l'attestation, tester qu'Allah Azzawajal, c'est lui seul qui mérite l'adoration, et donc de concrétiser cela par les actes, par les paroles, par le cœur, mais également, pour que cela devienne complet, de s'écarter et de rejeter tout ce qui est en dehors d'Allah Azzawajal comme adoration. C'est-à-dire qu'on adore un autre qu'Allah Azzawajal. Adawan Nafi. Ça, c'est les deux piliers de quoi? Du Tawhid. Al-Ifdat wa Nafi. Et on va retrouver dans beaucoup des versets du Coran où Allah Azzawajal, il nous rappelle la voix des envoyés, qu'ils ont commencé par là. L'autre verset du Coran que l'on cite, c'est le suivant. Lorsque Ibrahim, le prophète Ibrahim, alayhi salam, qui fait partie bien entendu des grands prophètes de l'islam, car tous ils ont appelé bien entendu à l'islam, qui fait partie des grands prophètes de cette religion. Ibrahim, lorsqu'il dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Dans ce verset, qui est le suivant, lorsqu'il a dit Ibrahim à son père et à son peuple, إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Je me désavoue, je suis innocent, je me désavoue, je m'écarte donc de ce que vous adorez. Donc ici, An-Nafi. On retrouve donc le premier. Ou le deuxième, suivant là, c'est pas un problème, du tawhid. Et ensuite, illa alladhi fatarani, c'est-à-dire sauf celui qui m'a créé. Donc on voit ici, dans la deuxième partie du verset, quoi? Ash al-ifdat. C'est en vérité simplement la traduction de la part d'Allah Azzawajal, la ilaha illallah. La ilaha nafi illallah. Ifdat. Nafi ifdat. Nafi ifdat, Allah. Également, Le deuxième verset que l'on cite, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. C'est-à-dire, nous n'avons pas envoyé d'avant toi, c'est-à-dire avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'envoyer le prophète, si ce n'est que nous l'avons fait comme révélation. لا إله إلا الله أو لا إله إلا أنا. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est moi. Si ce n'est moi. Donc on voit que également, ça a été le départ de la da'wah de tous les envoyés. On retrouve ici dans cette parole, la ilaha illallah, précisément ici, la ilaha illa ana fa'budun, où on nous a promis en nafi, et ensuite, elle est faite. Et c'est ainsi de suite dans beaucoup des versets du Coran. Lorsqu'on va retrouver le tawhid, on va s'apercevoir, que ce soit dans le même verset, ou alors que ce soit dans plusieurs versets, on va s'apercevoir toujours de ces deux piliers. Washtanibu ta'arut, qu'est-ce que veut dire le terme ta'arut? Ta'arut, la meilleure définition qui a été donnée par ces le grand savant de l'islam, Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et il dit, awalan, ta'arut, ça vient du terme tourian, ça vient du terme at-tourian, et qui est en réalité, tajawuz al-had, le fait de dépasser la limite, c'est le fait de dépasser la limite, at-tourian. C'est pour ça qu'on dit para, para du verbe, donc para, innaou, para, c'est-à-dire qu'il a dépassé la limite. Donc ce terme, il vient à Tarut de Turian, qui est donc le masdar, qui est du verbe donc Tara. Ça veut dire dépasser la limite, au niveau de la langue arabe. Ensuite, au niveau du char, comme l'a expliqué Ibn al-Qayyim et d'autres savants également, ma tajawaz al-abdu, ou ma tajawaz bihi al-abdu haddahu min ma'budin, ou matbu'in, matbu'in, ou muta'a. Donc trois. Min ma'budin, ou matbu'in, ou muta'ah. Pour ce qui est de al-ma'bud, min ma'budin, tout ce qui est en dehors, c'est en réalité, à titre d'exemple, al-asnam, al-as'ar, c'est-à-dire donc les idoles, c'est-à-dire également les statues, etc. Ça rentre dans al-ma'bud. Donc si on adore, ou alors tout ce qui va être en dehors d'Allah Azza wa Jalla qui rentre dans ce terme ma'bud, ça fait partie de tawarit. C'est le terme de l'adjam ta'out. Ou matbou'a. Matbou'a, comme l'expliquait Ibn Qayyim, à titre d'exemple, al-kuhan. Al-kuhan ou sahara. Qui sont en réalité les devins. Qui sont les devins et qui sont également les sorciers. Ceux donc qui sont suivis. Et eux, bien entendu, les devins et les sorciers toujours, parce qu'ils sont suivis dans leur dalal et dans leur shirk. Yardaoui. C'est-à-dire donc qu'ils sont. Qui sont satisfaits de cela. Alors ça, c'est une condition pour que la personne ne s'arrête pas à route, c'est qu'on soit tous satisfaits de cela. Sinon, on adorait des gens en dehors d'Allah Azza wa Jalla, ces gens, ils n'ont pas été satisfaits de cela. Comme par exemple Aïssa, Ibn Maryam. C'est un prophète qui n'a jamais pu accepter qu'on adore en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Donc ça, c'est bien une condition. La condition, c'est qu'ils soient en fait satisfaits. Yardaoui bidalik. Ensuite, ça c'est pour Matboua. Et ensuite, Mutaa'a. Al-Mutar, c'est celui donc qui obéit. Comme, à titre d'exemple, Al-Umara, c'est-à-dire les dirigeants. Ou alors Al-Ulama, c'est-à-dire les savants. Ceux qui vont détenir une autorité. Et qui vont légiférer. Donc ici, ceux qui, si on les suit dans ce qui nous oblige, par exemple, comme shirk ou autre, ou comme désobéissance à Allah Azza wa Jalla. Donc ici, on va également rentrer, ou ils vont rentrer dans cela, si eux, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont fait. Et pour ici développer, certains savants, comme Cheikh Al-Rafaymin, Rahmatullah Ali, ils divisent donc, ou ils nous donnent trois catégories de ce genre de personnes, de ceux donc qui vont suivre. Il va dire, la première catégorie, c'est ceux qui sont satisfaits de cette loi, qui est une loi différente de celle d'Allah Azza wa Jalla. Donc il est satisfait de cette loi-là, il la suit, et en réalité, il déteste la loi d'Allah Azza wa Jalla. Donc le fait qu'il a détesté la loi d'Allah Azza wa Jalla, le fait qu'il est satisfait d'une autre loi, et le fait donc qu'il la suit, tout ça, ça va nous prouver que cette personne-là rentre sur Qism al-Kuffar, c'est-à-dire dans ceux qui sont considérés comme mécréants dans l'islam. Et bien entendu, pour celui-là, celui qui va détester la loi d'Allah Azza wa Jalla, qui va être satisfait d'une autre loi. D'ailleurs, ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est la personne donc qui va suivre cette loi-là, mais il n'est pas satisfait de cette loi. Il n'est pas satisfait de cette loi-là, et il sait, avec croyance, que la loi d'Allah Azza wa Jalla, c'est la meilleure, que c'est celle qu'il doit suivre. Mais, bi shahwa, c'est-à-dire le fait qu'il suive sa passion, ou alors pour des biens matériels, le fait de pouvoir accéder par exemple à une wadifa, c'est-à-dire un métier, etc., elle va donc suivre certaines lois, vous voyez, alors que lui, dans son cas-là, il n'est pas satisfait de cette loi, il sait que c'est la meilleure loi d'Allah, etc. Lui, c'est un as, un passe, la kina est fou, c'est une sorte d'instinct. Ça reste une personne qui est considérée donc aux yeux de la religion comme une personne étant face, c'est-à-dire pervers, et as, c'est-à-dire donc qui vit dans la désobéissance. Et ensuite, la troisième personne, c'est celle qui est ignorante. C'est celle qui est ignorante, celle qui ne sait pas. C'est une personne, elle ne fait pas la différence entre réellement la loi d'Allah Azzawajal et une autre loi, de par leur ignorance. Cette catégorie-là est divisée en deux catégories. La première, c'est la personne qui a la capacité de pouvoir apprendre et qui ne l'a pas fait. Cette personne-là, en réalité, c'est un hakim. C'est une personne non qui reste dans la désobéissance et qui est considérée comme un pécheur parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire apprendre et se renseigner pour ce qui est de la loi d'Allah Azzawajal. Et la deuxième personne, c'est celle qui n'a pas les moyens de se renseigner ou qui n'a pas les moyens d'avoir science de cela. Comme par exemple une personne qui serait vraiment très, très vieille en âge ou alors qui n'aurait pas la possibilité ou qui n'aurait aucun savant auprès de lui, etc. Et Annie, Yachimela Kafira, à la Kouliha, cette personne-là, elle n'a rien du tout. Cette personne-là, elle n'a rien du tout de par son ignorance et qu'elle n'a pas pu apprendre. Et on se base, où le Shia, Rahimallah, il s'était basé sur un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est apporté par Abu Dawud ou Ahmed, qui est un hadith authentique. Où le prophète sallam, il a dit, un afta bi-ghayri ilmin, celui donc qui va donner un avis de jurisprudence sans science. Celui qui va donner un avis de jurisprudence sans science. Un afta bi-ghayri ilmin, fa innama al-ithmu ala man aftahu. C'est-à-dire, le péché est sur celui qui a fait la fatwa. Le péché est sur celui qui a fait la fatwa. Parce qu'on prend de ce hadith, ma wa wajud istidlal, l'aspect argumentatif, c'est tout simplement que la personne qui va demander une fatwa à un savant, croyant que c'est une personne qui a de la science, cette personne, elle va répondre, elle va faire une fatwa sans aucune science. Vous voyez, sur qui est le péché à ce moment-là, et qu'elle, bien entendu, elle va prendre en compte cette fatwa, qu'elle va gagner à même qu'il pas d'avis de fatwa, c'est-à-dire elle va faire l'acte suivant ce qui lui a été dit. Le péché, lui, sur qui, il est sur celui qui a fait la fatwa, comme l'indique le hadith du prophète sallam, pas sur celui qui a pris la fatwa, et qui ensuite qui l'a fait, de par son ignorance. Donc on voit ici que c'est sur quoi les savants sont basés pour dire que celui qui n'avait pas la capacité de distinguer la relation sur ce sujet-là n'avait rien par rapport à la religion. Pour ce qui est également de cette question, on se rappelle un verset du Coran et qui est le suivant. « Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah » C'est-à-dire ils ont pris, Allah Azza wa Jalla nous dit que certaines personnes ont pris donc leur al-ahbar, c'est le pluriel de habr, et qui est le al-alim al-wasir, wasir al-alim, celui qui a beaucoup de science et qui est un savant. Takhadou ahbarahum. Et on va le plus retrouver cela chez qui? Chez les juifs. Car on sait que les juifs, ils ont su, alimou, ils ont eu la science, mais ils n'ont pas suivi. Waruhbanahum. Waruhban, ce sont donc l'abid al-za'id, c'est donc celui qui fait beaucoup d'adoration. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de jahl par rapport au din, mais qui a un niveau d'adoration qui est très élevé. Za'id, c'est-à-dire asad. Donc cette personne-là, on va la retrouver plus précisément chez qui? Chez les chrétiens, car ils sont égarés de par donc leur ignorance, de par leur ignorance, contrairement aux juifs, dans la majeure partie des cas. Ittakhadu ahbarahum arbanahum arbaban min dunillah, comme seigneur en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Un des sahabis, qui était lui avant le chrétien, qui s'était converti à l'islam, il est venu au prophète sallam lorsqu'il a entendu ce verset, car il y a un échec, c'est-à-dire il y a une ambiguïté. Mais il croyait en réalité que jamais ces gens-là, ils ont pris ce type de gens comme qui? Comme Yanni, seigneur. Comme s'il avait voué une adoration. Et le prophète sallam, il va lui faire comprendre comment ici elle est venue cette adoration en dehors d'Allah Azza wa Jalla, ou alors dans quel prisme, dans quelle catégorie ça va rentrer. Et ce sahabi, c'est bien entendu Adi ibn Hatim, radiyallahu ta'ala anhu. Et le prophète sallam, il lui a dit, lasna na'buduhum, c'est-à-dire, on ne les adorait pas. Le prophète sallam, donc, il va user la lishuba, c'est-à-dire qu'il va, ou la lishkal, c'est-à-dire qu'il va dissiper cette ambiguïté qu'il avait à Adi. Il va lui dire, alayhi sa, يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقال نعم، فقال فتلك عبادته. وقال صلى الله عليه وسلم، إلا جاء عدي بن حاتم، ce n'est pas ces gens-là qui rendent licite ce qu'Allah a déjà lui a rendu illicite, et vous vous les suivez dans cela. Et ce n'est pas ces gens-là qui rendent illicite ce qu'Allah a déjà lui a rendu illicite, et vous les suivez dans cela. Et Adi Zénam, c'est-à-dire longtemps mieux avant, longtemps avant de la Jahili, avant qu'il se convertisse, c'était comme ça. Il a dit Nam, il a dit qu'il t'a ribad à tout. Il a dit donc ceci est leur adoration, ribad à tout. C'est-à-dire donc ils les ont adorés dans ce sens-là. Ils les ont suivis. Et bien entendu, c'est de dire kafad. C'est-à-dire qu'ils ont eu la croyance. Vous voyez, ce qu'ils faisaient, c'était donc ils étaient satisfaits qu'ils avaient la croyance que cela était meilleur. Donc ils sont rentrés dans le shirk, fi al-bab. Donc c'est pour ça que dans ce verset, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. الطاغوت rentre tout cela dedans. Et donc, on voit qu'ici il y a الإثبات والنفي. والنفي نفي إيش؟ نفي الشرك. L'associationnisme. Donc on va renier l'associationnisme de façon générale. وَشِرْك شِرْك الأكبر وشِرْك الأصغر. L'associationnisme qui est majeur et l'associationnisme qui est mineur. Et bien entendu, pour faire la différence entre les deux, pour ce qui est du majeur, celui qui le fait, c'est celui qui va rentrer en enfer éternellement. Et donc Allah Azza wa Jalla jamais va lui pardonner. Et celui qui n'est pas considéré comme musulman. Et celui qui, s'il meurt, on ne l'enterre pas avec les musulmans. Et il ne mérite pas. Contrairement à celui qui rentre dans le shirk al-asghar. Celui, le shirk al-asghar, c'est celui donc qui ne sort pas de l'islam. Et donc, ses œuvres ne sont pas toutes annulées, contrairement au shirk al-akbar. Et donc, il reste musulman, donc on hérite de lui, etc. Pour ce qui est du pardon, on se connaît ce verset. Petit de rappel, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْرِكَ. Allah, il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et ici, donc, le shirk, il y a un avoir le shirk al-akbar ou al-asghar. Il y en a mutlaq al-shirk, c'est-à-dire mutlaq al-shirk. C'est-à-dire le shirk, il est cité de façon absolue. Donc, il rentre dedans le shirk al-akbar ou le shirk al-asghar. Donc, Allah, il ne pardonne pas ces deux catégories du shirk, comme cela a été cité par beaucoup de savants, parmi les muhaqqiqin, Mouchar al-Islam et d'autres encore. C'est ce que les envoyés ils ont commencé. Ils ont commencé donc à mettre en garde leur communauté du shirk. Et on va voir que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, durant toute sa vie, c'est ce qu'il a fait. Que ce soit le shirk dans les actes, que ce soit le shirk dans les paroles, etc. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie, il a mis en garde contre cela. Et nous, on va insister, Inch'Allah, sur un point qui est important. Un point qui est fondamental. Et on voit malheureusement aujourd'hui beaucoup de musulmans qui sont tombés dedans. Qui sont tombés dans ce shirk-là. Et donc, si il a kazna ala hadha an-naw' min ash-shirk wa ala hadhihi as-surah, si on se concentre sur cela, on voit beaucoup de gens qui sont tombés dans cette catégorie. Et bien, plus précisément, ceux qui vivent au Maghrib al-Arabi, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie, des choses qu'on voit beaucoup. Et qui, en réalité, l'adoration de l'Awliya, le culte qui est voué à l'Aulia, ou ce qu'on appelle au saint, et tout ce qui est fait au niveau des tombes. Et donc, on va parler sur ce sujet-là. Parce qu'on va voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a été la dawa de tous les prophètes avant lui, ils ont mis en garde, c'est-à-dire qu'ils ont mis en garde de manière forte, de manière appuyée dans leur vie. Et on va voir à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa vie, à travers donc, ses paroles, est-ce qu'il a mis en évidence ce qu'il nous a donné. Averti, on va voir qu'il n'y a plus ensuite d'ambiguïté pour tomber dedans. Pour celui qui a la science et pour celui qui apprend son tawhid, pour celui donc qui connaît comment les prophètes ils ont procédé dans leur da'wah. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla nous dit d'abord dans un verset du Coran, Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Oh vous les gens du livre, n'exagérez pas dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. Et il dit sur Allah uniquement la vérité. Pourquoi cela? Parce qu'on sait que les gens du livre, et plus particulièrement les chrétiens, et également les juifs, ils ont pris des hommes en dehors d'Allah Azza wa Jalla comme divinité. Que ce soit les juifs au Zaïre, ils ont dit que c'était le fils d'Allah, que ce soit les chrétiens, ils ont fait Isa. Soit ils ont dit qu'il faisait partie de la Trinité, soit ils ont dit que c'était le fils d'Allah. Ou soit ils ont dit même ceux qui ont dit que c'est Allah lui-même, etc. Dans toutes les sectes qu'on retrouve chez les chrétiens. Eux, ils sont tombés dedans, voyez, parce qu'ils ont adoré un autre Allah Azza wa Jalla. Et ça a commencé par quoi? Par Al-Ghulu. C'est-à-dire qu'ils ont placé une personne dessus de son niveau. C'est ce qu'on va retrouver en réalité chez beaucoup des musulmans, malheureusement, qui sont tombés dans ce shirk. Si on regarde vers les rois, si on regarde comment le shirk il a apparu, comment le shirk il a apparu sur la terre, et à partir de ce moment-là, les envoyés, ils ont été envoyés. On sait que, dans un verset du Coran, Allah Azzawajal, il va nous indiquer, subhanahu wa ta'ala, il va nous indiquer que le shirk il est advenu dans la communauté de Nuh, alayhi salam, qui était donc le premier envoyé. Entre eux, comme cela a été expliqué par Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, et d'autres parmi les salafs, entre Adam et entre Nuh, il y a eu 10 siècles. 10 siècles, les musulmans, car ils étaient considérés comme musulmans, mais en tout cas, monothéistes, ils étaient tous uniques. Ou alors, ils étaient unifiés sur la même croyance. Il n'y avait pas de divergence entre eux durant 10 siècles. Jusqu'à ce qu'il advienne ce shirk. On va voir comment il est advenu le shirk. Et on va ensuite faire la comparaison avec ce qui est advenu dans la communauté musulmane. Et on va voir également ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Sachant ce qui était apparu déjà dans le Firqaoum et Noé, c'est-à-dire dans le peuple de Noé. Les savants, ils ont divergé. Est-ce que c'était au moment où Noé il était là, ou alors avant Noé? Wal-tahtir, c'est-à-dire donc la parole la plus forte, c'est de dire, comme beaucoup l'ont dit parmi les savants, c'est qu'il est advenu avant même que Noé soit envoyé, qu'il soit présent. Donc avant Noé, même si ça fait partie du Qawm Nuh, mais il se peut que ce soit son peuple, d'où il est venu et d'où il est né, mais que ce chef-là, il est advenu avant. Allah Azzawajal nous dit dans un verset du Coran, et va donc faire apparaître ici comment est advenu ce chef, ou plutôt, il va nous rappeler qu'à ce moment-là, il y a le chef qui est advenu, et qui est le verset suivant. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا سواع ولا يعوث ويعوق ونصرا. Donc ici, c'est par rapport au peuple de Noé. Allah Azza wa Jalla dit, en parlant donc d'eux, ne délaissez pas آلهتكم, c'est-à-dire vos divinités. Et ne délaissez pas, et ensuite il a cité Allah Azza wa Jalla des noms de ces gens qui ont été adorés. Et qui étaient à la base, vous savez qui étaient à la base des pieux, des gens pieux, salihins. Des Aoulia, comme on les appelle. Donc regardez maintenant, déjà on va s'apercevoir le parallèle qu'il y a entre ce premier temps où le shirk il a apparu et aujourd'hui dans notre communauté où le shirk également il a apparu. Ayad nous dit là chez beaucoup de musulmans. Et ensuite il a cité des noms comme quoi, doit se voir, etc. Les noms donc de ces cinq noms qui ont été des divinités qu'on adorait en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Il nous explique qu'il nous rappelle qu'au départ, il y avait donc des gens pieux. Des gens très pieux. Aoulia, ceux qui étaient proches d'Allah Azzawajal. Vous voyez, on sait que l'Ouali, c'est celui qui craint Allah Azzawajal, celui qui est proche d'Allah Azzawajal, celui qui craint Allah Azzawajal, qui est réellement sur la voie d'Allah Azzawajal, la voie des prophètes. Donc il y avait des gens qui étaient très pieux. Et ces gens-là, lorsqu'ils sont morts, les gens de Nuh, c'est-à-dire du peuple de Nuh, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on va faire une chose, regardez, c'est en réalité ce que le shaitan leur a insufflé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont placé ce qu'on appelle les ansar, qui est le pluriel de nusuf. Ou un nusuf, c'est ce qu'on place en réalité, c'est ce qu'on implante, c'est ce qu'on fixe dans la terre. Ça peut être par exemple des bois, donc ce bois, ça peut être par exemple shijara, ça peut être des pierres. Alors que les hommes vont les placer. Et on va mettre leur nom, et on va les placer dans Fimajal et Sina, lorsqu'on s'assoit, dans nos assises. Tout simplement, pourquoi? Pour se rappeler de ces gens-là. Pour se rappeler leur adoration et pour qu'on les prenne comme modèle. Regardez, au départ, toujours la bonne niya. C'est au départ, beaucoup les gens, ils s'égarent en réalité, et au départ, ils ont une niya qui est bonne. Mais en réalité, qui est contraire à la charia, qui est contraire donc à la loi. On va voir qu'à la fin, il ne peut pas devenir du bien. Même si on a une niya au départ qui est bonne. Ils ont fait cela. Et ils nous expliquent, ils nous rappellent que le temps ensuite, il est passé. Ils n'ont pas été adorés. Ils en sont restés ces gens-là parce qu'ils avaient de la science. Ils avaient du règne, ils ne sont pas tombés dans cela. Mais ils ont ouvert une porte. Et ils ont fait un grand mal, malgré tout. Et lorsque, comme il nous dit, lorsque la science elle a disparu, donc on voit ici Fadl al-Ilm, comme on l'avait expliqué déjà dans le premier cours, et l'introduction qu'on avait fait. Regardez donc le bien de la science. C'est-à-dire qu'une fois que cette science-là a commencé à disparaître, et que les gens ils sont tombés dans l'ignorance, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à adorer ces tombes-là, qui étaient en réalité à la base qui? Les gens pieux, Aoulia. Et c'est ce qu'on retrouve de nos jours, dans beaucoup des pays du Maghreb. C'est des gens qui étaient pieux, et donc ils vont à leur tombe. طيب au départ c'est toujours pour une bonne nia yani pour prendre baraka etc et même si ça c'est comme on va le faire inchallah comme cela est interdit et comme le fera inchallah après s'il le détaillera et ça se finit en fait directement par le shirk et ça se finit même par le shirk akbar le grand associationnisme c'est comme ça que ça a commencé chez moi et ça ensuite ça s'est répété et c'est pour ça que le prophète sallam et tous les envoyés et leur voix lorsqu'ils ont parlé du tawhid ils ont mis en évidence tout ce qui venait à l'encontre et ils ont bloqué c'est-à-dire qu'ils ont bloqué toutes les voies qui allaient amener au shirk. Et beaucoup de savants disent, lorsqu'ils donnent la définition de le shirk al-asghar, ils disent en vérité le shirk al-asghar, ou alladhi yuwasil, ou natawassal bihi le shirk al-akbar. C'est-à-dire donc, c'est une voie par laquelle elle va nous amener, cette voie-là, au grand polythéisme. Et ça rentre donc dans le shirk. Ça, c'est le shirk al-asghar, qui est une définition qui est donnée par beaucoup des savants. Taïf. Et comme on l'a dit au départ, les musulmans hésitaient, voilà les monothéismes hésitaient tous sur le droit chemin. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. C'est-à-dire, les gens, la communauté, ils étaient tous unis. أُمَّةً وَاحِدَةً, c'est-à-dire sur le haq. Et dans une riwayat de ce verset, فَاخْتَلَفُوا, c'est-à-dire ensuite ils sont divisés, donc Allah Azza wa Jalla à ce moment-là, les envoyer pour donc rectifier ce dont ils avaient la vie absolue, c'est-à-dire ce dont ils avaient détérioré pour ce qui est de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ayant la science de ce qui était arrivé auparavant et ne voulant pas que cela se répète dans sa communauté, il nous a dit un hadith et nous a mis en garde. Ce hadith donc qui est muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, qui est un hadith de Omar radiallahu ta'ala anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تروني كما أفرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله لا تروني في سبيل الله كي لن يتعم الإطراء بالطاء سي en réalité comme nous explique les savants المبالغة في المدح هذا هو الإطراء c'est en réalité l'exagération dans l'éloge. L'exagération dans l'éloge. Al-mubalara fil madh. Hada wa al-ittara. En fait, ce sein lui dit, la tutruni. C'est-à-dire donc, ne faites pas l'exagération de mon éloge. Comme on fait al-nasara. Comme on fait donc, les chrétiens avec qui? Avec Isa. Mais dites, je suis l'envoyé d'Allah Azzawajal, ou dites, je suis son esclave. Il a commencé pour faire ça par dire, ou par citer la première caractéristique, qui est la caractéristique du prophète de tous les envoyés, qui est l'ubudiyya. Ici, il y a l'ubudiyat al-khassa, ana abdullah. C'est-à-dire, je suis l'envoyé d'Allah Azzawajal. Ou afin, je suis l'esclave d'Allah Azzawajal. Et on est tous des esclaves. Taïb, il a commencé par cela dans un premier temps. Pour rappeler aux gens que sa menzila, c'est-à-dire sa place, elle est à ce niveau-là. C'est-à-dire, donc, il reste, pour ce qui est de son statut, un homme comme les autres. Et qui, on ne peut lui louer donc aucune adoration. On ne peut lui louer aucune adoration, quelle que ce soit, petite ou grande. Donc il a commencé par cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour mettre en garde dans sa communauté. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça par rapport à lui, alors qu'est-ce qu'on doit dire par rapport aux gens pieux? Est-ce qu'on a le droit d'exagérer dans leur louange et d'en venir jusqu'à aller prendre la baraka chez eux, ou alors jusqu'à égorger devant leur tombe al-dhabaih, sacrifice, etc. Ayyadun billah, si on ne fait pas ce prophète, alors on va le faire pour celui qui est en dessous de lui. Et lorsqu'on a dit al-ubudiyya, bien entendu, al-ubudiyya al-am ou al-ubudiyya al-khas. Tout le nez, ribadun illah, ils sont tous donc des esclaves. Mais il y a parmi eux, c'est ce qu'il y a en nom de Rubudiyat al-Khassa, c'est-à-dire celle qui est spécifique, ce sont les croyants. Donc le prophète, il a dit, Ana Abdullah, Fakulu Abdullah wa Rasulu. Wa Rasulu. Et ensuite, il est venu à deux musulmans caractéristiques, et qui en réalité, A'la al-Was, un des makhlouqin, qui est en réalité la plus grande caractéristique chez les hommes, qui est en réalité, Wasper Disara, qui est celui donc, c'est les caractéristiques du message, donc de celui qui est messager. Donc ce hadith est plus que clair que le prophète Sallam l'a mis en garde, comme l'ont fait tous les autres prophètes, pour ce qui est donc de protéger le tawhid et tout ce qui peut lui venir à son encontre. Et même pour ce qui est de lui, du prophète Sallam. On va voir encore d'autres hadiths qui sont dans ce sens. Pour ce qui est du al-shukuk, les savants nous ont rappelé qu'il y a trois. C'est-à-dire qu'il y a trois en réalité droits. Il y a un droit qui est propre à Allah Azza wa Jal. Haq, محض لله وما يختص بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. C'est-à-dire un droit qui est spécial à Allah Azza wa Jal et qui est propre et qui est spécifique à lui et qui rentre dans son adoration, qui rentre dans sa seigneurie, qui rentre dans ses noms et ses attributs. Comme Allah Azza wa Jal, il dit وَصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, c'est-à-dire faites sa louange, Allah Azza wa Jal, بُكْرَةً وَأَصِيلًا, c'est-à-dire مِنْ بِدَاتَ النَّهَارِ إِلَى النِّهَايَةِ ou مِنْ أَوَلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِ, c'est-à-dire du début de la journée et à la fin de la journée. سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, هذا حق الله محق. Il y a un حق qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, حق خاص للنبي صلى الله عليه وسلم, وهو إعانته وتوقيره وتعزيزه. C'est-à-dire le fait qu'on doit aider le prophète sur scène, donc durant son élan, comme l'ont fait les sahaba, comme l'ont fait les croyants. Et on doit lui donner un grand honneur. Et on doit lui donner un grand honneur et un grand respect. Donc on doit le vénérer, le prophète sur scène. Vénérer, bien entendu, suivant son rang. C'est ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ, c'est-à-dire vous lui faites honneur, وَتُوَقِّرُوهُ, et vous lui donnez un grand respect. Ça, c'est un droit qui est spécial au prophète sur salam. Et ensuite, il y a un droit qui est mushtarak. Haqq mushtarak. C'est-à-dire un droit qui est commun pour Allah et le prophète. Et qui est, comme on trouve dans le verset suivant, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ, c'est-à-dire que vous croyez en Allah et son prophète. Donc cette foi que l'on doit avoir, c'est le droit d'Allah et le droit du prophète. Le droit d'Allah comme étant le Seigneur et le droit du prophète, bien entendu, comme étant l'envoyé. C'est la troisième catégorie d'al-shukr ici. Taïf. Donc on voit qu'il n'y a pas à faire de khalt, c'est-à-dire on n'a pas à faire de mélange pour ce qui est le droit du prophète et le droit d'Allah Azza wa Jal, pour que les choses soient claires. Ensuite on va rentrer dans ce qui est encore plus spécifique. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit une chose. Il nous a interdit une chose et que ici également les musulmans ils l'ont fait, ayyadun billah. Et qui sont écartés de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont écartés de la voie de tous les envoyés d'Allah Azza wa Jal, et ils sont tombés dans le mal, ils sont tombés dans le shirk de par cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, il y a beaucoup de riwayats, c'est-à-dire beaucoup de hadiths qui sont mis dans le même sens du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On prend une des riwayats, muttafaqun alayhi min hadith Aisha, il dit la'natullah ala al-yahud wa al-nasara. La'natullah ala al-yahud wa al-nasara, il nous dit, c'est-à-dire que la malédiction ce sont les juifs et les chrétiens. اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. Ils ont pris les cimetières, ou les قبور, les cimetières donc, de leurs envoyés comme une prière. Et ensuite, Aïcha dit, يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك أبرز قبره. إلا أنه خشي أن يتخذ مسجدا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde de ce qu'ont fait les juifs et les chrétiens. Ils ont pris donc les cimetières de leur prophète comme lieu de prière. Qu'est-ce que ça veut dire ittikhad al-masajid? Qu'est-ce que ça veut dire ittikhad al-qubur masajid? Ici on va voir qu'il rentre dedans trois sens. Et on va le voir à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Trois sens. Le premier sens, as-salatu ala al-qubur, bima'na sujoudu alayha. Ça, c'est le premier sens qui rentre dans l'ittikhaj al-qubur masajid. C'est-à-dire le fait qu'on va se prosterner au-dessus du cimetière, on se prosterne. Ça rentre dedans. Le deuxième sens, et par rapport à ça, on a un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith ibn Abbas, qui nous dit, et qui est un hadith rapporté par l'imam al-Tabarani, qui est authentifié par Cheikh al-Albani, et celui-ci là. Et qui est numéro 1016. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, la tusallu ila qabrin, wa la tusallu ala qabrin. La tusallu ila qabrin, wa la tusallu ala qabrin. Donc ala qabrin, au-dessus du cimetière. Le deuxième sens, c'est as-sujoudu ilayha wa istiqbaluha bis-salah wa du'a andaha. Ça, c'est le deuxième sens. C'est le fait de prendre le cimetière en face de nous, de prendre comme une qibla, et donc à partir de là de se prosterner ou alors de faire des doigts. Ça y est. Et ici, c'est précisé dans le hadith d'Ibn Abbas, la tussallu ila al-qabr, il est en direction de l'qabr, mais également, voilà tussallu ala al-qabr, ce pas donc prier au-dessus. Ce hadith, il suffit pour les deux. Et ensuite, le troisième, c'est bina al-masajid alayha wa qasdu salat fiha. C'est-à-dire le fait de construire une mosquée au-dessus. De quoi? Au-dessus des al-qubur. Et ensuite de prier dedans. Et avec le qasd, on sait bien qu'il y a al-qubur et c'est pour ça qu'on l'a fait. Et dedans, il y a deux images qui vont rentrer. La première image, donc, c'est le fait de la construction elle-même. Et la deuxième image, c'est le fait de prier au milieu des al-qubur. Le fait de, par exemple, de prier en ce qui est un cimetière, on se met au milieu du cimetière et on prie dans le cimetière. Voyez ? Donc il rentre deux images dans cette troisième catégorie. Donc on voit qu'il y a trois sortes. Et tout ça, ça rentre dans Ittihad, Al-Qubur, Masajid. Ah, c'est strictement interdit de le faire. Même il est venu dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, il est venu qu'on n'a pas le droit de s'asseoir sur Al-Qabr. Ou la taqoudou alayh. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit même de s'asseoir sur Al-Qabr, qu'on n'a pas le droit. Donc regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a mis en garde pour ce qui est de Masalat al-Qubur. Et regardez ce fondement des musulmans de nos jours. Ils ont été bien plus loin. S'ils avaient respecté ces choses, ou alors ces interdictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien de cela ne se serait passé, absolument rien. C'est par ignorance. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit tout cela? Pourquoi il nous a interdit tout cela? C'est tout simplement pour donc éviter qu'on tombe dans le shirk et que les gens qui commencent à prier en direction d'Al-Qabr, ou alors qu'il commence à prier proche des morts, que le shaitan y vienne, ou waswas, et qu'ensuite ça devienne, et que même si la personne a fait ça, elle a de la sens au départ, si cette sens elle part, comme on l'a vu, c'est arrivé sur Promenoir, alors qu'est-ce qu'ils adviennent? Ils adviennent que ces gens ensuite, ils prennent, et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce qu'on voit, ils prennent un awliya, ils prennent donc les saints, et ils leur vouent une adoration. Ou alors ils font des doigts autour d'eux, auprès d'eux, etc. Pour ce qui est du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa tombe, ici on va avoir en réalité peut-être une choubwa, c'est-à-dire une ambiguïté. Dans le hadith que j'avais cité, le hadith de Aïcha, elle avait dit que s'il n'y avait pas eu cela, et que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas eu peur qu'on prenne donc sa tombe comme quoi, comme lieu de prière, oubriza qabrou, c'est-à-dire que oubriza bilan al-buruz et qui est abdur, qui est le fait donc qu'on aurait placé donc sa tombe au prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'où elle a été placée, c'est-à-dire dans Fujrati, c'est-à-dire dans son appartement. Par exemple, on l'aurait mis au Baqir. Ou alors on l'a mis dans un autre endroit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu cela. Il n'a pas voulu cela de faire donc de cela qu'on vienne et qu'on prenne donc cet endroit-là comme lieu de prière. C'est pour ça qu'il est resté, ça c'était la première illa. La première cause, c'est pour ça qu'il est resté qu'on l'a donc, d'oufina fi makan, makan adima tafi. Ça y est? La deuxième illa, c'est que, comme il nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qui est des anbiya, on les enterre ou ils meurent. Ça, c'est la deuxième cause. Donc, pour ces deux causes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était placé, ou il était enterré là où il est mort, c'est-à-dire dans la maison de Aïcha, dans l'appartement de Aïcha, pour dire l'autre à Anna. La choubra qui peut venir, c'était l'ambiguïté, c'est que maintenant, dans la mosquée al-Nabawi, le masjid al-Nabawi, on a le tombeau en réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve à l'intérieur de la mosquée. Qui se retrouve à l'intérieur de la mosquée. Donc ça peut être une ambiguïté. C'est beaucoup de gens qui posent la question. Pourquoi son tombeau à l'intérieur de la mosquée? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit qu'on prenne donc la mosquée comme lieu où Arfan, le cimetière, comme lieu de prière. Ou alors qu'on prenne son tombeau comme lieu de prière, etc. On va répondre ici de plusieurs façons. Dans un premier temps, du temps du prophète, et au moment où il est mort, et ensuite du temps des sahaba, le prophète et la maison du prophète, c'était en dehors de sa mosquée. Donc il n'y avait aucune ambiguïté. C'était en dehors de sa mosquée. Et ça, c'était du temps des Sahaba. Certains savants, ils ont dit que même du temps des Sahaba, il y a eu ensuite ce qu'on appelle le Tawsi'at, c'est-à-dire l'expansion qui a été faite de la mosquée, et qui a été faite sous Al-Walid ibn Abd al-Malik, en l'an 88. En l'an 88, Al-Walid ibn Malik, Rahimallah, qui était donc Amir al-Mu'minin à ce temps-là, c'est lui qui a donné l'ordre donc d'agrandir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de là, donc, de faire entrer l'al-Qabr et donc l'appartement du prophète à l'intérieur de la mosquée. Mais à ce moment-là, beaucoup de savants, ils ont dit, comme Shahab al-Bani et d'autres parmi les muhaqqiqin, ils ont dit qu'il n'y avait plus de sahaba à cette époque. On ne s'est pas fait du temps des sahaba. Certains ont dit qu'il y avait des sahaba, voilà qu'il y a un karou, mais d'autres ont dit qu'il n'y avait pas de sahaba. Et il est vrai que le dernier sahaba qui est mort à Médine, c'était Jabir ibn Abdillah, radiallahu ta'ala anhu. Il est mort exactement en l'an 78, Fikhila Fatih Abdelmalik, c'est-à-dire donc le fils de Al-Walid, qui est à l'époque Abdel Malik al-Amir. Donc on voit que déjà du temps de Sahaba, il n'y a pas eu cela. En fait, sa famille n'est pas rentrée à l'intérieur, donc on n'a pas fait l'expansion de la mosquée. Aïe. Et la deuxième chose également, c'est parmi les tabi'in, on sait ceux qui ont donc un chaos, c'est-à-dire ceux qui ont été contre cela. Et parmi eux, il y a eu Saïd ibn Musayyib, qui faisait partie bien entendu des grands savants parmi les tabi'in. Une fuqara al-tabi'in al-kibar, c'est-à-dire parmi les jeunes musulmans. On sait que lui, de manière claire, il était contre cela. Ensuite, la troisième chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que cela est advenu, et qu'on a retrouvé donc l'appartement à l'intérieur de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il a fait une dua. Le prophète il a fait une dua avant qu'il meure. Et il a dit cette dua, Allahumma la taj'ali qabri wa thanan yu'badu. Wa thanan yu'badu. C'est-à-dire, ô mon Seigneur, ne place pas ma tombe comme une. Et qu'elle devienne donc cette tombe, wafanan, c'est-à-dire comme une statue qu'on adore en dehors d'Allah Azzawaj, comme une idole qu'on adore Allah Azzawaj. Et on sait que cela, en fait, comme nous le rappelle Ibn Qayyim rahmatullah alayh, que Allah Azzawaj istajaba da'watahu, c'est-à-dire qu'il a répondu à sa dua. Pourquoi? Parce que maintenant, à l'intérieur de l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il est mort, à l'intérieur du Qabr, il y a en vérité trois murs, taïb, et ces trois murs, la façon dont ils sont disposés, il est strictement impossible que la personne, elle se dirige vers la Qibla, elle se dirige en même temps vers la tombe du prophète. Ça, c'est strictement impossible que cela tienne. Donc les gens, en réalité, ils ne peuvent pas prier en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et uniquement les bid'ahs qu'on va voir, c'est les bid'ahs lorsqu'ils se mettent devant et qu'ils font par exemple des doigts, etc. Voyez. Mais jamais ça a été pris en réalité comme un lieu de prière. Ça n'a jamais été pris donc comme un lieu de prière. Car il est strictement impossible de se diriger en direction de la Qibla et en même temps de se diriger dans la direction du tombeau. Et personne ne peut savoir exactement où on met la direction du tombeau. Donc on va s'apercevoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup insisté sur cela, pour ce qui est de Masalat al-Qubur, ou al-Qabr. Et donc tout simplement pour préserver le tawhid. Et également dans un autre hadith qui est apporté par l'imam muslim, hadith Abu al-Hayyaj al-Asadi, radiallahu ta'ala anhu, qui nous rapporte qu'il est envoyé par Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, en mission. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il lui a dit Ali, il lui a dit « Ala ba'athuka lima ba'atha alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ala ba'athuka ala ma ba'athani ilayhi ou alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » C'est-à-dire, je ne t'enverrai pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé. C'est-à-dire, par rapport à l'exécution d'une chose. « An la tada'a, an la tada'a jifalan illa tommastaw. Wa la khabaran mushrifan illa sawwaykar. » C'est-à-dire donc, ici, quelle est sa mission? C'est à chaque fois qu'il va voir un timtal. Le timtal, c'est un surah, dat arwah, c'est-à-dire une image qui a une âme. Lorsqu'il la voit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit l'effacer. Apam, c'est al-izara, le fait d'effacer. Taïf, voilà, qabran mushrifan, donc al-qabr qui est le tombeau. Mushrifan, qu'est-ce que veut dire ce terme mushrifan? Ça veut dire murtafi'an. Murtafi'an an al-arb. Illa sawwaykar. Sauf, donc si tu vois une tombe qui va être au-dessus, être élevée, moustafir, par rapport à la terre, au niveau de la terre, tu dois donc la niveler et la rendre au même niveau que la terre. Tout cela, pourquoi le prophète sallam a fait cela? Pourquoi donc, jusqu'à ce niveau, il a incité le prophète sallam sur cela? Donc pour couper toutes les voies au shirk, toutes les voies au shirk. Et ça, c'était la voie de tous les prophètes. C'est par cela qu'ils ont commencé. Et c'est par cela qu'ils ont fini. Et c'était cela durant toute leur vie. Donc c'est par cela que tous ceux donc viennent à s'éloigner de la da'wah, ceux qui se réclament de la da'wah, ils doivent commencer par cela. Celui qui ne commence pas par cela, ou le groupe qui ne commence pas par cela, pour être sûr, ce sont des personnes qui sont écartées de la voie du prophète. Ils commencent à vous parler toute la journée de ce qu'il y a à ça. Ils n'ont aucune importance, ils sont ignorants du réel aslan. Sache qu'ils sont loin du ménage de l'Anbiya. Ou alors, qu'ils vous parlent d'appeler les autres à l'islam et qu'ils ne connaissent même pas eux-mêmes ce que c'est réellement le tawhid et tout ce qui rentre en dehors du tawhid et qu'ils appellent les gens donc à concrétiser le tawhid. Alors sachez que ces gens-là, ils ont été dès le premier point qu'on voit aujourd'hui et qu'on a vu hier et qui est donc le commencement des prophètes dans leur da'wah par la concrétisation du tawhid. Vous pouvez savoir donc que ce sont des gens qui sont écartée. Aïe. On va parler d'une question, Inch'Allah. Ça, c'est en plus, Inch'Allah. Si on fait une parenthèse, on finit par cela. On va parler d'une question également qui est importante, Inch'Allah, et qui concerne tout le monde, et qui concerne plus particulièrement les sœurs. Pour ce qui est de Ziyarat al-Qubur, pour ce qui est donc de visiter les tombes. La question, c'est la suivante qui va se poser. Est-ce que les femmes, An-Nisa, elles ont le droit de visiter les tombes? Est-ce que les femmes, elles ont le droit de visiter les tombes? Que ce soit la tombe du prophète, que ce soit toutes les autres tombes. Sachant pour ce qui est du prophète, et ce qui concerne les hommes ici, uniquement ce qui nous est rapporté d'un sahabi Ibn Omar, c'est que lorsqu'il voyageait et lorsqu'il revenait, il passait de Salem, il passait devant donc, la tombe du prophète, ensuite d'Abu Bakr et de Omar, et il passait donc le Salem. Il passait le Salem. C'est uniquement ce qui nous est parvenu du sahaba, rien d'autre. Il ne faisait rien en dehors de cela. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Sallu alayhi fa inna salatakum tablughuni ayna kuntum. C'est-à-dire donc, au comme qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, priez sur moi et votre prière, elle va me parvenir où que vous soyez. Donc on n'a pas besoin de se placer à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors faire des invocations à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous est parvenu des sahaba uniquement, c'est un fier de sahaba. C'est-à-dire, c'est un acte d'un sahabi, c'est uniquement Ibn Omar, lorsqu'il voyageait, lorsqu'il revenait, il passait le salam à la tombe, lorsqu'il passait devant, uniquement, rien d'autre. À tous les hadiths. Pour ce qui est de notre question là, il faut savoir que les savants de l'islam, ils sont divisés en trois. C'est-à-dire trois avis. Le premier avis, ceux qui ont dit que c'est strictement interdit, que la femme n'a pas le droit de visiter la tombe. Le deuxième avis, c'est ceux qui ont dit que c'est strictement. Ou alors que c'est autorisé, moi de la femme. C'est autorisé que la femme elle peut visiter les tombes. Et ensuite, le troisième avis, ceux qui ont dit le karaha, c'est-à-dire donc que cela est détestable. C'est permis, mais cela est détestable. On va revenir donc sur les preuves de chacun. Taïr. C'est bon? Salam. Taïr, barre le dos, Inch'Allah. À tous les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a un hadith de lui. Et ce hadith, ça va être l'onda, ça veut dire ce qu'ils vont prendre, ceux qui ont strictement interdit que les femmes elles visitent les tombes. Ce hadith est le suivant, c'est un hadith qui a plusieurs versions. Et parmi ces versions, d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « La'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, za'irat al-qubur. Wa fi riwayatin ukhra » زوارات القبور زوارات القبور سحريك يا قصيد ابن عباس ابو هريره كيدوس انكور il y a beaucoup de versions. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit, les savants qui n'ont strictement interdit? Ils ont dit ici on a l'âme, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'âme, on sait que l'âme soit l'ibaraj an rahmatillah, c'est-à-dire le fait qu'on invoque qu'une personne elle soit écartée de la miséricorde d'Allah, c'est la malédiction l'âme. Donc ça veut dire لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور. Dans une autre version, زوارات القبور. Pour ce qui est de زوارات القبور, ça veut dire donc celle qui visite le قبور. Ils ont dit dans ces salons ici, c'est strictement interdit que la femme elle visite. Et ça fait même partie de الكبائر. Parce que اللعن, ça fait partie من الوعيد الشديد. والوعيد الشديد يدل على الكبيرة. يدل على الكبيرة. C'est-à-dire, ça indique que c'est un grand péché. Donc ils ont pris ce hadith. Ceux qui ont permis, ils vont répondre à ce hadith-là. Et ils vont dire ce hadith-là, dans la version où il y a Zouwarat. Zouwarat, c'est-à-dire à la was al-mubalaha. C'est-à-dire celle qui visite beaucoup. Zouwarat, celle qui visite beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on a une autre version, c'est qui est la suivante. Min hadith Abu Huraira. Zairat. Et ici, on n'a pas en vérité de mubalaha, c'est-à-dire de caractéristiques d'exagération. C'est-à-dire uniquement celle qui va visiter. Voyez. Et c'est une version à la réalité qui est authentique. C'est-à-dire que beaucoup de savants, même s'il y a une divergence, ils ont authentifié. Et parmi eux, Hamad Shir, le grand muhaddith de Médine, et qui est mort, rahimahullah, qui s'appelait Hamad al-Ansari, et qui était parmi les grands savants et les grands muhaddith de Médine. Et qui a une risala sur ce sujet-là, y conclut à nouveau, il fait taqir qu'il y a plusieurs versions de ce hadith et de cette parole-là, et qui vient Zahirat, ça c'est la première chose. La deuxième chose, Zouwarat, ça ne veut pas uniquement dire, dans tous les cas, que c'est l'exagération. C'est-à-dire, on peut dire Zouwarat, alors c'est une femme, ou alors que les femmes, elles visitent, même de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans la langue arabe, c'est un procédé qui est utilisé. Par exemple, Allah avait dit dans le Coran, il dit, subhanahu wa ta'ala, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامَ لِلْعَبِيدِ. C'est-à-dire, et Allah Azzawajal, ton Seigneur, et ton Seigneur, ne fait pas injustice, n'est pas injuste envers ses créatures. D'ailleurs, ici, Abdallam, Abdallam à la wajj al-mubalara, c'est-à-dire par exagération. Et ça veut dire qu'Allah Azzawajal, il n'est pas injuste par exagération envers ses créatures, mais injuste par non-exagération, abadan. Mais ici, c'est utilisé, ça ne veut pas dire que wajj al-mubalara à la haqiqat, c'est-à-dire que c'est réellement ce qui va être compris. De même ici, Zouwarat. Donc ceux qui ont interdit, ils ont répondu de cette manière-là. D'ailleurs, ensuite, pour ceux qui ont dit que c'était permis, ils vont revenir avec d'autres hadiths, ils vont revenir avec d'autres preuves. Parmi ces preuves, hadith muttafaqun alayhi, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, min hadith Umm Atiya, radiallahu ta'ala anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, lamma qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Medina, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Medina, jam'a nisa al-ansar fi baytihi. Il a donc réuni les femmes des ansar dans une maison. Et parmi ce qu'il leur a dit, وَنَعَانَ عَنِ اتِّبَعَ الْجَنَائِسِ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا. C'est-à-dire qu'il nous a interdit de suivre le convoi funèbre. مَعْنَا لَا يُمَكِّدْ وَمَا أَكَّدَ هَذَا النَّائِ. C'est-à-dire qu'il n'a pas insisté sur ce naï. Certains savants donc, ils ont compris que ce n'est pas une interdiction totale. Mais en réalité, la réelle compréhension par rapport à la langue, c'est simplement un ladina ma'akada, c'est-à-dire qu'il n'a pas insisté sur cette interdiction. L'interdiction elle est restée. Et donc, les femmes elles n'ont jamais suivi les convois funèbres, et que cela reste une interdiction. Donc, en réalité, cette preuve-là, ça devient une preuve pour ceux qui ont dit que c'était strictement interdit qu'elles suivent ou qu'elles aillent visiter les tombes. Et pourquoi cela? Si c'est strictement interdit qu'elles suivent le convois funèbre, il y a une ba'aoula, c'est interdit, à plus forte raison, ça va être interdit qu'elles vont quoi? Qu'elles vont visiter la tombe. Parce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Man salla ala janaza falahu qiraat » Celui qui va prier sur un mort, il va avoir donc une grande récompense, le qiraat. C'est une montagne, comme on l'a expliqué, une grande récompense. « Wa man tabi'a al janaza falahu qiraatan » Et celui ensuite qui va suivre la janaza, il va avoir deux grandes récompenses. Donc on voit ici l'importance de suivre le convoi funèbre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interdit ici pour les femmes. Une baba'aoula qui interdit donc qu'elle quoi? Qu'elle vienne visiter les tombes. Ensuite, ils ont rappelé également un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Bureyda anda muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قَدْ نَعِيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا تُذَكِّرْ الْمَوْتِ وَفِي رِوَايَةِ تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةِ. C'est-à-dire, je vous avais avant interdit de visiter les tombes. Et maintenant, je vous l'ai permis. Pourquoi? Al-illah. Parce qu'elle va vous rappeler la mort. Parce qu'elle vous rappelle la mort. Donc c'est un vicre pour vous. Quand vous visitez les tombes, vous voyez les morts, subhanallah, ça vous rappelle que vous allez passer par là. Et donc, ça vous motive à vous préparer pour ce jour-là. Yom al-Na'ad, ou Yom al-Barzah, qabou. À la kulli hal, ils ont dit donc ici que c'était âme pour les hommes et pour les femmes. Donc, cette interdiction, elle a enlevé l'interdiction qui était précédente. Mais ceux qui ont dit que c'était interdit vont répondre à cela. Ils vont dire dans un premier temps que cette parole en réalité elle est khas li'rijal. Parce que le prophète sur Salam, il n'a pas dit qu'il avait enlevé l'âme. C'est-à-dire, il n'a pas dit kuntu l'âme tukum. C'est-à-dire que je vous avais donc maudit par rapport à cela. Mais il a bien dit khas na'itukum. C'est-à-dire que je vous avais strictement interdit auparavant. Donc l'âme, ça reste pour ce qui est du premier hadith. Et la deuxième chose, pour qu'on dise que le hadith yansar l'awwal, c'est-à-dire qu'il abroge le premier, il faut des preuves. Il faut des preuves par rapport à cela. Et on sait que, pour ce qui est de al-nasr, c'est une étape que l'on va utiliser en dernier lieu. C'est-à-dire qu'avant cela, on va utiliser une autre étape, et qui est le jam. On a deux hadiths du prophète, ou alors d'un nasr, que ce soit un verset, ou alors un hadith, qui n'est pas ces éléments ici, en l'occurrence un hadith, deux hadiths, qui sont en apparence contradictoires, on va essayer d'abord de les rassembler. Et si on ne peut pas les rassembler, alors ensuite, on va voir s'il y en a un qui va annuler l'autre, qui va abroger l'autre. Ici, on peut les rassembler. Tout simplement, on les rassemble pour ce qui est du premier, que l'interdiction qui était auparavant, c'était pour les hommes, et qu'ensuite, elle a été dissipée, cette interdiction. Mais pour ce qui est des femmes, l'arna, c'est-à-dire la malédiction, va rester. Et donc, on a rassemblé les deux hadiths. Taïb, il n'y a pas ici de ta'arud bainahuma. Et on a passé ici un nas, on a abrogé le premier hadith ou le deuxième hadith par rapport au premier hadith. C'est comme ça qu'ils ont répondu, les savants. Et donc ça reste ici, Al-'am yakhuss ar-rijal dun an-nisa. Ensuite, ils ont pris également un autre hadith, qui est un hadith rapporté par Anas, radiallahu ta'ala, anhu 'ind al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant une femme, marra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi mar'a. C'est-à-dire, elle était donc auprès d'une tombe et elle pleurait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ittaqillah wasbiri. Et qu'est-ce qu'elle lui a répondu, la femme? Elle lui a répondu, ilayka anni, c'est-à-dire, ibta'id anni, c'est-à-dire, éloigne-toi de moi. Lam tusaf bi musibati, c'est-à-dire, tu n'as pas été atteint de mon malheur à moi. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti. Mais elle ne savait pas que c'était le prophète. Une fois qu'elle a su que c'était le prophète, elle est retournée vers lui, et qu'est-ce qu'il a répondu le prophète? Il lui a dit, innama as-sabru 'inda as-sumati al-ula. C'est-à-dire qu'en réalité, la patience, c'est au moment du premier choc. C'est pas plus tard, un an après, ou alors bien plus tard, on a eu ce malheur. C'est au moment où il nous arrive, au moment du choc, c'est là qu'on doit faire preuve de quoi? De sabre. On doit faire preuve, donc, de patience. Et on sait que, as-sabre, au niveau de la religion, il y a au moment de l'ittila, ala wal wajib, as-sabre. C'est-à-dire qu'on patiente. Même si on n'a pas le rida, même si on n'est pas satisfait. Par contre, la satisfaction arriva, c'est quelque chose qui est au-dessus. Donc le premier niveau, ce qui est le plus haut, c'est ce qu'on va atteindre vraiment en croyant au niveau de l'ibtila, c'est arriva. Arriva ou as-sabr. Donc arriva, c'est-à-dire qu'il est satisfait du qada illah, ce qu'Allah a lui a prédestiné. Et s'il n'a pas cette capacité, alors ce qui est en dessous, et un niveau en dessous, c'est as-sabr. Et quoi, ça lui a dit, taqilla ou as-sabri. Mawa wajal istidlal, pour ceux qui ont dit que c'était une preuve, donc que la femme avait le droit de visiter la tombe, parce que pour la famille, il n'a pas interdit de visiter cette tombe-là. Mais ceux qui ont rendu interdit la visite des femmes, ils ont répondu également à ce hadith. Dans le premier temps, le Prophète a dit, taqillah, c'est-à-dire khan Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce que ça veut dire khan Allah? Ça veut dire qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a recommandé de faire? Et il y a une fois ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a interdit de faire. Et parmi ce qu'il a interdit, le hadith, que le Prophète lui-même il a cité, la'anallahu, أو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زوار القبور أو زائرات القبور. طيب. Ensuite il a dit donc patience. Et la deuxième chose c'est que cette femme-là à ce moment-là était déjà présente. طيب. Elle n'est pas venue donc spécialement pour visiter cette tombe, mais elle est venue parce qu'elle était atteinte d'un grand malheur. Ce qui l'a fait venir donc à la tombe. Donc ils ont répondu de cette façon-là. طيب. Il y a encore d'autres. On va pas s'étaler sur toutes les preuves, inshallah. La kulliha, pour ce qui est de la parole, qui est la plus forte. Ici, c'est le fait que la femme, elle n'a pas le droit de visiter les tombes. Et en plus de cela, si les gens ils regardent le waqi'a, si elles ont vraiment ce qui se passe lorsque les femmes elles visitent, on sait que la femme elle est da'ifa. Da'ifa. Wa ba'fwa fi arfi fatir. C'est-à-dire, on sait que l'état de la femme, c'est faiblesse. Elle vient d'où? Elle vient donc de sa forte émotion. La femme elle a une émotion qui est bien plus forte que l'homme. Et elle a une arfifa, c'est-à-dire un côté émotionnel qui est bien plus fort. Voyez. Et donc on sait qu'il arrive beaucoup de choses, c'est-à-dire, et plus précisément au niveau des tombes. Lorsque la femme elle vient en tombe, on sait que c'est... En majeure partie, c'est elle qui va faire des gestes, comme ce qu'on appelle un niyaha fitin. Un niyaha qui va se traduire par des paroles, ou qui va se traduire par des gestes qu'elle tombe, le fait de se déchirer les poches, le fait de s'arracher les joues, etc. C'est des choses qu'on trouve beaucoup chez les femmes, de nos jours. D'ailleurs, on peut le voir faire, c'est également, dans l'état actuel, c'est également donc le fait de couper et amener ce mal à la base. C'est pour ça donc que beaucoup de savants, et parmi Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, et beaucoup d'autres savants, Cheikh Al-Faymin, beaucoup de savants, ils ont dit donc que pour leur réagir, pour ce qui était de la femme, il était interdit que la femme visite donc les tombes. Naqtafi biyada, inshallah wa ta'ala. Wa nasallallahu azza wa jal, al-ikhlas al-qawli wa al-amal. والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك